Session théologique par le Père Philippe à Saint-Jaudard le 7 août 1988.
À mon tour, je vous dis qu'on est très heureux de vous recevoir ici pour ces quelques jours de réflexion théologique. Et pour que la théologie soit vraie, elle implique un certain effort de contemplation et de prière. Quand la théologie quitte le climat de prière, la théologie se laïcise, elle perd sa signification la plupart du temps. Ce serait intéressant du reste, hein, vous savez, de regarder tel ou tel livre de théologie d'aujourd'hui et de regarder la manière dont les pères de l'Église ont commencé à faire de la théologie. Toujours intéressant de regarder le point de départ. Vous savez. Petit Jean me dit ça, enfin, c'est ce qu'il connaît le mieux, c'est le point de départ. Et c'est toujours intéressant de regarder le point de départ de la théologie. Point de départ de la théologie, ça a été de prendre conscience de la grandeur de la parole de Dieu et de la révélation. Le croyant, c'est celui qui reçoit la parole de Dieu. Abraham. On va dire qu'Abraham est un théologien. Je ne crois pas. C'est un croyant. Est-ce que Moïse est un théologien ? Peut-être un peu plus. Il avait des possibilités chez Moïse. Il avait toute la culture égyptienne. J'aime bien Abraham, la culture de Mésopotamie. Mais on ne voit pas très bien Abraham, théologien, contemplatif, pendant la méridienne, d'une certaine manière, puisque c'est à ce moment-là où il y a eu vision, une apparition très étonnante. Dans la première alliance, il y a des croyants. Mais on ne peut pas dire qu'au sens strict, il y a une théologie, sauf si on disait qu'il y a une théologie révélée. Vous voyez, tous les livres sapientiaux, la grande influence grecque des livres sapientiaux, c'est quand même une certaine théologie révélée, c'est une vision sur l'homme et sur Dieu, sur la providence. On a l'occasion de regarder le début de la Genèse, c'est une certaine théologie. C'est révélé. C'est sur certaines, il y a une certaine réflexion sur l'homme créé à l'image de Dieu. Vous voyez, au fond, très très vite, c'est une chose très très intéressante du reste à noter, c'est que la foi et la réflexion sur la foi et la réflexion dans la foi sont très liées. Tel point que lorsque saint Thomas, donc bien plus tard, au Moyen-Âge, saint Thomas se pose la question de la nécessité de la doctrine sacrée, la doctrina sacra, la doctrine sacrée, c'est-à-dire la doctrine révélée. Quand on lit ces questions-là, quand on lit cette question, parce que c'est une grande question, quand on lit les articles successifs de cette question, on est très étonné de voir que pour saint Thomas, la nécessité de la théologie, c'est la même que celle de la foi. Pour nous, hommes du XXe siècle, qui sommes tellement habitués à distinguer foi et théologie. Il en a raison, du reste. On est très étonné de voir que saint Thomas, qui quand même, d'habitude, est très précis, a l'air de mettre dans le même regard la nécessité de la foi, la nécessité de la révélation et la nécessité de la théologie. Et la nécessité de la foi, vous savez bien pourquoi. Pourquoi la foi est-elle nécessaire? La foi est nécessaire non pas pour connaître l'homme en premier lieu, la foi est nécessaire pour connaître notre fin surnaturelle. Nous sommes appelés à la vision béatifique. C'est quand même important de se le rappeler. Parce que tout ce que nous verrons sera quand même toujours dans cette lumière. La nécessité de la foi, vertu de la vision béatifique. Pour la vision béatifique. Ensuite, la foi peut être très nécessaire pour mieux connaître Dieu, pour mieux connaître l'homme. Parce que nous sommes tellement paresseux qu'on a beaucoup de peine d'être philosophe. Beaucoup de temps, il faut du temps du reste, il faut des loisirs pour pouvoir faire de la philosophie et de la métaphysique. Alors on a besoin, à ce moment-là, de la révélation qui nous donne tout de suite un regard. On verra ça, parce que c'est intéressant. Il faut bien comprendre que la nécessité de la théologie est très liée à la nécessité de la foi. Au fond, la foi n'est jamais demeurée toute seule. Il y a toujours eu un halo théologique autour, tout le temps. Ça, il me semble bien. Il y a eu comme un milieu de réflexion théologique. Et la foi, un regard de foi, un regard contemplatif, à l'intérieur de ce milieu, la foi fait appel directement à la révélation. La théologie fait appel à la révélation et à la réflexion de l'homme. Le théologien, c'est celui qui réfléchit à partir de la foi. Celui qui essaie de comprendre mieux tout ce qu'il peut comprendre dans la révélation. La révélation, c'est Dieu qui nous enseigne. Donc c'est une haute école, très haute école, la plus haute école qui existe, au-dessus de toutes les autres écoles. Le croyant se met à l'école de Dieu. Ça, c'est extraordinaire. Il n'y en a pas besoin de payer. Parce que Dieu n'est pas un sophiste. On se met à l'école de Dieu. Le croyant se met à l'école de Dieu. Et donc, ce que Dieu veut lui transmettre, c'est souverainement intelligent. Si Dieu est Dieu, ben, il est plus intelligent que nous. Et se mettre à l'école de Dieu, c'est progresser, vous savez. Si on comprenait ça, on ferait bien plus de théologie qu'on pense. Puisque, dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Si vous fréquentez un tout petit peu la sagesse de Dieu, mais vous deviendrez sage. Vous deviendrez intelligent. Oui, si je pouvais mesurer au début de la session le degré de votre intelligence, c'est pareil. On mesurerait à la fin de la session le progrès que vous avez fait. Et on mettrait les réclames. Avant, après. Mais c'est extraordinaire. 5 jours de théologie. Regardez ce que ça apporte. 5 jours de théologie. C'est extraordinaire. Et c'est vrai ce qu'il y a de mieux. C'est que 5 jours de théologie peuvent vous apporter quelque chose de bouleversant. Parce qu'on se met à l'école de Dieu. À l'école de la sagesse de Dieu. C'est pas moi, c'est pas à mon école que vous mettez. Pas du tout. C'est à l'école de la sagesse de Dieu. Je serai, moi, de ne pas trop diminuer la sagesse de Dieu. Et cette fameuse parole du psaume, les hommes ont diminué la vérité. Les théologiens, très souvent, diminuent la vérité. Et ça, ce sont des mauvais théologiens. Parce que le vrai théologien essaie de ne pas diminuer la vérité, mais de montrer la vérité de la sagesse de Dieu dans toute sa force, dans toute sa puissance. On se met à l'école de la sagesse de Dieu. C'est ça qui est magnifique. Alors Dieu sert d'instrument. Il m'a mobilisé pour ça. Il m'a mobilisé pour que je puisse, auprès de vous, être le gâteau de la sagesse de Dieu. C'est ça. On essaie d'être le gâteau. Voyez bien. Petit cuisinier. De la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu nous dépasse infiniment. Alors on essaie, sur un sujet donné, de montrer un tout petit peu toute l'intelligence qui est comprise en nous, toute la grandeur de la chose. C'est ça. Il faut bien se mettre dans cette idée-là. On va faire un peu de théologie ensemble pour nous mettre à l'école de la sagesse de Dieu. Donc, je présuppose que vous êtes tous croyants. Oui, parce que pour la philosophie, je ne le présuppose pas. Mais pour la théologie, je le présuppose. Hein. Je présuppose, si parmi vous, il y en a qui ne sont pas croyants, au moins ils désirent l'être. C'est suffisant. C'est suffisant. Celui qui désire être croyant est croyant, dit saint Augustin. Et la grandeur de votre foi dépend de la grandeur de votre désir de foi. C'est extraordinaire, ça. Et c'est très beau, se rappeler ça. C'est très grand. Ce qui montre très bien que le désir de la foi nous ouvre le plus qu'on peut pour recevoir pleinement et totalement la révélation. Et Dieu voit le désir de notre cœur et nous comble. Donc, comprenez bien, nous mettons à l'école de la sagesse de Dieu pendant ces quelques jours en se servant de la sagesse humaine. Pour saint Thomas, il y a trois sagesses. Je dis ça tout de suite, hein, pour que nous comprenions. Trois sagesses. Il y a la sagesse. La sagesse, vous savez, Sophia. Faut jamais l'oublier. La sagesse, c'est Sophia. Sainte Sophie. Sainte Sophie. La grande église à Istanbul, à Constantinople, qui n'est plus au culte, qui est l'église la plus maternelle qui soit. C'est unique, Sainte Sophie. La sagesse. La sagesse philosophique, la sagesse théologique, de théologie acquise, et la sagesse mystique, le don de sagesse. J'aime oublier ça, très important. Pas une séparation, c'est une distinction. La sagesse philosophique, quelque chose qu'on acquiert. L'enfant dans le berceau, c'est une sagesse acquise. L'enfant dans le berceau n'a pas la sagesse philosophique. J'ai jamais vu des enfants dans le berceau qui avaient la sagesse philosophique. Ça s'acquiert. Ça met du temps. Ça met du temps. Parce que même si vous aimez beaucoup ce tout petit enfant, vous n'allez pas dire « Ah, oh, il a la sagesse philosophique !» Non, non, il n'a pas la sagesse philosophique. C'est une chose qu'on acquiert. La philosophie s'acquiert. Et la philosophie doit devenir une sagesse. parce qu'elle doit nous montrer quelle est notre fin humaine. La philosophie montre quelle est la fin de l'homme. La sagesse théologique acquise, c'est ce que saint Thomas appelle la doctrina sacra. La doctrine sacrée. Ça, c'est ce qu'on appelle la théologie habituellement. Et c'est quelque chose d'acquis. On acquiert ça. Puis la sagesse mystique, don du Saint-Esprit. Le gosse qui a été baptisé possède le don de sagesse. Dans son berceau, il n'exerce pas. Sauf des cas très exceptionnels. La sagesse, voyez, don de sagesse. Le don de sagesse présuppose la foi. Présuppose la foi. La théologie acquise présuppose la foi. C'est pour ça que la sagesse acquise a toujours deux sources. La première source, elle vient de la foi. Et la seconde source, ordonnée à la première, c'est la philosophie. La qualité d'une pensée théologique dépend toujours de l'intensité de la foi du théologien et de la qualité de son intelligence. C'est pour ça que quand je suis en face de certains théologiens qui critiquent saint Thomas, je leur dis, est-ce que vous avez la même intensité de foi de saint Thomas ? Est-ce que vous avez la même qualité d'intelligence ? Alors on les prend en duel, puis on voit tout de suite. S'ils ont une foi contemplative, parce que la sagesse théologique réclame une foi contemplative. Je crois que pour être un bon théologien, il faut être un contemplatif. Donc une foi très intense, une foi animée de l'amour, une foi contemplative et une intelligence bien formée. Si votre intelligence est faussée, bon, vous avez été faussé par le marxisme, ça peut arriver ça, ou par l'hégélianisme, ça peut arriver encore plus. Mais pourtant, vous êtes croyant. Ça arrive. Il y a des croyants qui sont marxistes. Voyez, quand ils font de la théologie, ça fait une salade russe. Hein, c'est évident. Parce que de fait, ils ont la foi qui adhère à la révélation. À la révélation. Et leur intelligence est faussée, moi, je le dis moi, leur intelligence est faussée par telle ou telle idéologie. Alors quand on lit les deux, ça ne va plus du tout. Si je fais de la philosophie en tant que croyant, c'est pour purifier mon intelligence et lui permettre de laisser libre cours à la foi. Puisque vous comprenez que la foi, quand même, nous élève dans un regard tellement supérieur à la philosophie. Pensez toujours à ça, n'est-ce pas ? Parce qu'aujourd'hui, on a des comparaisons aériennes. Un avion qui vole à 10 000, un avion qui vole à 500 mètres, c'est quand même pas tout à fait la même chose. Il n'y a pas de danger qui se rencontre, sauf sur le terrain d'atterrissage. le terrain d'atterrissage de la sagesse philosophique et de la foi, c'est l'homme. Nous sommes un terrain d'atterrissage. Et c'est pour ça que de temps en temps, dans le même homme, philosophe et chrétien, il peut y avoir comme des conflits. Terrain d'atterrissage par rapport à l'homme. Oui, ça peut arriver, ça. En réalité, il ne peut pas y avoir de conflit entre la philosophie et la foi. C'est impossible. La foi est un regard divin. La philosophie, c'est la recherche de la vérité au point de vue humain. Donc, 500 mètres, je ne vois pas si mal pour un philosophe. Parce qu'il y a des philosophes qui sont, j'allais dire, rase-motte. Il y a des philosophes qui sont rase-toi. Vous voyez, ça fait des accidents, tu vois, de parcours. Mais ils ne vont pas très long, pas très haut, pas très haut. Ils ne dépassent pas le langage. Ils ne vont jamais plus loin. Ils n'ont pas compris qu'il y avait quelque chose au-dessus du langage, qu'il y avait la pensée. Un bon philosophe, oui, il s'élève. Et la foi, c'est pas s'élever la foi, c'est Dieu qui vient vers moi. Le philosophe, il monte. Le croyant, il reçoit. Il reçoit la lumière de Dieu. Il reçoit une lumière infuse. C'est étonnant. C'est merveilleux de voir ça, du reste. C'est étonnant de comprendre un peu ce que, en nous, nous portons une recherche de la vérité philosophique et une capacité par la foi, de recevoir la lumière divine. Il ne peut pas y avoir de conflit. Mais, dans le terrain d'atterrissage, et le terrain d'atterrissage, l'homme se sert du langage. Or, c'est le même langage. Le langage de la foi, le langage du philosophe. Ce sont les mêmes roues d'atterrissage. Le langage est le même. Ah, vous voyez toutes les possibilités de conflit. La signification du langage au plan philosophique et au plan de la foi, c'est pas la même chose. Ceci, c'est pour vous faire comprendre hein, que nous nous plaçons pendant ces quelques jours dans la lumière de la théologie acquise. Et le soir, de temps en temps, je ne dis pas nécessairement tous les soirs, nous essaierons de regarder un tout petit peu certains aspects de la théologie mystique. C'est bon. C'est bon de bien distinguer, d'arriver à bien discerner le point de vue du philosophe. Alors on ne fait pas de philosophie pour elle-même, si on se sert de la philosophie pour faire de la théologie. S'il y a des difficultés là-dessus, vous les notez, pas seulement ce soir, mais pour tous les cours. Parce que je ne vous demanderai pas après les cours, est-ce qu'il y a des questions? On est trop nombreux, ça risquerait de durer trop longtemps. Mais je vous demande alors de noter ce que vous ne comprenez pas pendant les cours. J'essaierai d'employer un langage pas trop compliqué. Je dis ça, c'est parce que le philosophe est habitué à son langage. Il faudrait que chaque fois que j'emploie un mot, un gros mot philosophique, il y ait une sirène. Alors à ce moment-là, je dis, bon, très bien, je reviens, je vous donne l'explication. Bon, alors je peux très bien l'oublier. Quand je suis attentif, j'essaierai de ne pas l'employer, mais je peux très bien l'employer. Ça peut très bien se faire. Alors vous le notez, vous. Vous aurez, durant l'après-midi, ce soir, je fais un cours bref, parce que on est fatigué, on va à Saint-Jaudard, c'est loin de tout, n'est-ce pas ? Saint-Jaudard, c'est un peu un désert, quand on vient du désert, on se serait bien que c'est pas tout à fait Saint-Jaudard, mais c'est quand même un désert, quand même. comparativement à la banlieue de Paris. C'est loin de tout. C'est vrai. Pas la tentation d'aller au cinéma le soir. C'est pour ça que je suis ici. Vous enlevez cette tentation, parce qu'il y aurait la moitié de personnes qui sont au cinéma, et l'autre qui viendrait suivre les causes. Tandis que vous n'avez pas de danger, pas de tentation. Évitons les tentations. Le matin, à 9h30, la conférence ici. Puis la seconde conférence à 17h, et la troisième conférence à 20h30. Entre deux, à cause de la chaleur, à 15h, pour ceux et celles qui voudraient, il y aura des carrefours. Du reste, demain, après la première conférence, je réunirai ceux et celles d'entre vous qui veulent assister au carrefour. Vous êtes libres. Alors j'explique. Les carrefours, c'est quoi? On divisera en trois groupes. Pas les jeunes, les moins jeunes et ceux qui sont encore moins jeunes. Non, on divisera plutôt ceux qui n'ont jamais fait de théologie. Les débutants, ceux qui sont les progressants, qui ont déjà fait des sessions de théologie, et puis ceux qui sont alors très calés. Trois niveaux spirituels, les commençants, les progressants et ceux qui sont déjà dans l'union mystique. Alors au niveau théologique, je ne dis pas ceux qui ont déjà eu la vision de Dieu per modum transeuntis, comme disent les théologiens, c'est-à-dire une vision de Dieu par mode transitif. Non, aucun parmi vous, donc c'est pas la peine de mettre ces sessions-là. Mais ceux qui connaissent déjà quand même. Alors, je dis ça dès ce soir pour que vous puissiez réfléchir. Un gallon, deux gallons, trois gallons. Déjà ? Alors, s'il y en a très peu de trois gallons, je diviserai les deux gallons en deux. Vous voyez ? Par humilité, je vais dire, oh, non, non. Je fais un peu de théologie, pas beaucoup. Alors, très bien, on divisera en deux, là. Puis, vous aurez un père qui sera là pour vous aider à répondre à vos questions. Les questions immédiates, c'est pour ça que c'est bon. Pendant le cours, quand vous essayez, tout de suite, vous notez. Il y aura quelqu'un qui sera là pour vous aider à mettre un peu les choses au point. Et puis toutes les questions qui se poseront. Et puis s'il voit qu'il y a telle ou telle question particulièrement importante, qui pourrait intéresser tout le monde, il les notera. Et il me les donnera pour le second cours. Et je répondrai à ce moment-là d'abord à certaines questions posées. Ou à des questions qui m'ont été posées directement. Donc vous voyez bien, pour qu'il y ait à la fois une coopération, c'est une session, donc on fait ça ensemble, qu'il n'y ait pas que le monologue, et cependant qu'on puisse avancer. Si tout le monde prend la parole à tout moment, on n'avancera pas du tout. Et ceux qui savent déjà, ils sont agacés. Alors je ne veux pas ça. Je veux qu'on avance. Et même si on a de la peine à comprendre, tant pis. Il vaut mieux toujours parler pour les plus intelligents. D'abord, ça flatte les moins intelligents. Tandis que si je parle pour les moins intelligents, les plus intelligents, c'est ennuyeux. Qu'ils avancent, eux, quoi. On sait tout ça. De temps en temps, je vous montrerai que vous n'avez rien. C'est bon. Pour aiguiser votre appétit. Alors à ce moment-là, on lit un chapitre de saint Thomas. Alors tiens, je suis saint Thomas. Et pourtant, saint Thomas dit que c'est pour les débutants. Je le ferai par mode d'exercice. Ici, on aime saint Thomas. Cache pas nos couleurs, on aime saint Thomas. parce qu'il est intelligent, parce que c'est un saint. Et parce que l'Église aussi considère que c'est le docteur commun. C'est-à-dire que saint Thomas dit des choses sensées, intelligentes. Mais saint Thomas lui-même veut qu'on cherche. Et si saint Thomas était vivant au milieu de nous, il dirait très très bien, vous pouvez vous aider de mon petit scriptum, de mon petit résumé, mais cherchez, allez plus loin, parce qu'il y a des problèmes actuels qui se posent. Et c'est vrai, il y a des problèmes nouveaux qui obligent d'aller plus loin. On ne peut pas répéter saint Thomas. Du reste, répéter, c'est pas intelligent. On essaie de comprendre pour pénétrer et aller plus loin. Répéter pour le plaisir de répéter, ce n'est pas être intelligent. Saint-Esprit n'aime pas qu'on répète. Il aime qu'on cherche. Qu'on cherche la vérité et on sait qu'avec lui, on sera conduit à la vérité tout entière. C'est ça qui est magnifique. Donc, vous voyez bien, ensemble. Je suis très souple, hein? Donc s'il y avait des questions que je traite très rapidement et que vous, vous voulez qu'on revienne, et vous avez des objections, vous les posez. Vous les posez au carrefour et on les transmet. D'autre part, je serai aussi à votre disposition, normalement après les conférences, dans la petite salle qui est en bas. J'ai mon nom écrit dessus, donc facile à trouver. Et la conférence de l'après-midi aussi. Pas le soir, tant que possible. Pour vous laisser un peu plus de temps de vous reposer. Pour que vous ne dormiez pas trop pendant les cours. Alors, pour ça, c'est mieux. Je dis ça pour vous. Hein. Parce que si, moi, ça ne me dérange pas beaucoup. Sauf si on ronfle. Et mais autrement, ça ne me dérange pas beaucoup. Si, je vois tout le monde qui dort, je me poserai une question. Quand, si tout le monde dort, peut-être mieux se taire pour les laisser dormir tranquille. Vous voyez, normalement la miséricorde consiste à parler, mais quand on est en face de gens qui dorment, la miséricorde quelquefois c'est de les laisser dormir. Vous savez bien, c'est ce qu'on cite pour Sartre. Sartre faisait une conférence. Il y avait beaucoup de personnes, beaucoup de monde, au début. Ça durait très longtemps. Vous ne voyez pas très le temps passer. Il ne faisait pas attention. Alors, les gens partaient. C'était l'heure de la soupe. Les gens partaient successivement. Et alors le dernier s'est posé un cas de conscience. Dois-je partir sur la fine pointe des pieds sans qu'il s'en aperçoive? Ou dois-je l'avertir que je suis le dernier? Mais alors ce cas de conscience ne se poserait pas pour celui qui dort. Parce que normalement, quand on a fait un roupillon, on ne le fait pas volontairement. N'est-ce pas? Donc il ne se poserait pas. Donc ce serait très bien. Ce serait moi qui verrais tout le monde dormir. Alors je partirais par la porte. Là. Et puis le premier qui se réveillerait, il dirait tiens, quelle heure est-il? Personne. Et puis il verrait que tout le monde dort. Je ne sais pas ce qu'il ferait. On ne fera pas de répétition de ça. Non, pas la peine. Mais pour vous dire que je suis à votre disposition après les deux conférences, du matin et la seconde, ceux qui veulent me voir, au plan théologique, au plan spirituel, c'est bien évident, c'est à tous les plans, 1, 2, 3. Et ceux qui désirent absolument, on laissera une feuille et vous mettrez où vous êtes pour pouvoir vous chercher. Autant que possible, venez de vous-même, c'est mieux. Et effacez votre nom après m'avoir vu. Parce qu'autrement, on ne sait jamais. On ne sait pas ceux qui sont venus. Comme je ne connais pas nécessairement tous vos noms, je ne peux pas le savoir. Vous effacez après et le suivant vient successivement. Je crois que de cette manière, on peut passer une semaine, du moins quelques 5 jours, dans une vraie recherche de vérité. C'est ça qui m'importe beaucoup. Dans un climat de totale confiance, je vous le dis, puisque vous êtes venu, je vous fais totale confiance. Je vous demande de faire aussi totale confiance. Totale confiance, comprenez bien. Confiance au niveau personnel. Pas dire, ah, tout ce qu'il dit, c'est la vérité. Pas du tout. On recherche la vérité. Mais totale confiance en ce sens que j'aime pas les mouchards, les accusateurs. Vous voyez, si parmi vous, il y en a un qui est venu dire, je vais suivre la session, je vais voir ce qu'il dit. Puis je note ceci en vue de l'envoyer à telle personne. Non, c'est entre nous. C'est ça que je dis, manque de confiance. Vous voyez, si on parle très librement, on doit pouvoir poser les questions à la personne qui parle librement. Autrement, on ne peut plus parler librement. Vous voyez, alors, je ferai grande attention à tout ce que je dirai, de pouvoir le justifier immédiatement. Alors, ça perd d'intérêt. Ça devient un cours académique. Les cours académiques, il y en a assez. C'est pas la peine. On ne progresse que quand on est en face d'une intelligence qui recherche la vérité. Donc, vivante. Et qui éveille. Et pour ça, il faut une totale confiance. C'est très, très curieux, parce que je sais pas pourquoi, mais on sent. On sent tout de suite si les gens sont là par amour de la vérité ou si les gens sont là pour tout simplement être là. Tiens, il dit ça. Alors, si ça vous pose une question, vous interrogez. Peut-être que je pourrais vous dire des choses qui vous scandaliseront. C'est possible. Le scandale en soi n'est pas mauvais. C'est les conséquences du scandale. Mais le scandale en soi n'est pas mauvais, puisque notre intelligence est scandalisée quand elle est devant quelque chose qu'elle n'avait jamais pensé à ça. Ah, vous me scandalisez. Pourquoi ? Alors, vous me dites, vous me scandalisez, vous avez dit ça, est-ce que c'est vrai ? Ça, j'aime beaucoup ça. Mais je ne fais pas exprès de vous scandaliser. Hein. Non, pas du tout. Je ne vais pas faire ça exprès. J'essaierai d'exposer le mieux que je peux sur un sujet difficile, complexe et très important. Création, recréation. Vous voyez le mot, le problème de la création aujourd'hui est très à l'ordre du jour. Le problème de la recréation est très à l'ordre du jour. Alors, je ne vais pas m'attarder trop sur toutes les erreurs qui ont pu être dites dans ce domaine-là. Il faudrait. Ce serait très intéressant. Mais on ira assez vite. Et si vous-même, vous avez des questions là-dessus, parce que vous avez lu tel bouquin, puis vous n'avez pas su répondre, vous avez mis un grand point d'interrogation, vous direz, ben, est-ce que j'ai lu ça ? J'ai lu ça dans tel livre, de théologie, est-ce que c'est juste ? On doit se poser la question. On n'a pas avalé n'importe quoi. Parce que quand on avale du poison, on s'empoisonne. On s'en aperçoit pas tout de suite. Mais petit à petit, on s'en aperçoit. Et on est empoisonné. Et on n'a plus la même liberté intérieure. C'est la vérité qui nous libère. Et c'est dans la mesure où on atteint la vérité qu'on a une liberté intérieure extraordinairement grande. On n'a plus aucune peur. Non. Parce que la vérité nous donne cette liberté, cette liberté profonde, que la sagesse philosophique, la sagesse théologique, la sagesse mystique,